Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois une jeune femme passionnée par l'art de la pâtisserie, Alison Delcroix, compagnon du devoir, un parcours exigeant qui demande rigueur, discipline et passion. Ensemble, nous allons parler de son métier, de son parcours, de transmission, mais aussi de ce qu'il se cache réellement derrière les vitrines des pâtisseries. Alison, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment la pâtisserie est entrée dans ta vie ?
Alors moi, il faut savoir que sortie de collège, j'avais déjà envie de partir en pâtisserie. Mes parents n'étaient pas forcément hyper partants, parce que c'est pas un métier, selon eux, en tout cas à l'époque, c'était pas un métier qui était forcément hyper adapté à la vie d'une femme, si on voulait avoir des enfants, etc. etc. Ils avaient plutôt en tête que je parte en général. J'étais plutôt douée à l'école, donc en fait, je suis partie faire un bac général, économique et social. Et une fois que c'était la fin d'année, et on s'est renseigné sur pas mal d'écoles, Parcoursup, partir en comptabilité, partir faire du droit. Bon, j'avais toujours envie de faire de la pâtisserie. Et du coup, ils m'ont dit, bon, bah, quitte à faire de la pâtisserie, autant bien faire les choses. Et ils m'ont envoyé chez les Compagnons du Devoir. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez les Compagnons pour faire de la pâtisserie.
Ah oui, c'est pas commun de penser directement à aller chez les Compagnons. C'est chouette qu'ils aient pu y penser.
Ouais.
Est-ce que... tu dis que depuis que tu étais enfant, tu avais envie de faire de la pâtisserie, mais qu'est-ce qui t'a mis... Qu'est-ce qui t'a donné cette envie ? C'était comme ça, inné, ou il y a eu un élément particulier qui t'a déclenché ça ?
Non, je pense que c'était comme ça. Moi, j'ai ma maman qui a été très longtemps femme au foyer, puisqu'on était trois enfants. Et ça arrivait très régulièrement que dans la semaine, elle nous fasse des gâteaux pour le goûter ou ce genre de choses. On faisait les repas. Elle nous faisait les repas le soir.
Et alors, pourquoi la pâtisserie plutôt qu'un autre métier de bouche ?
Je pense que ça fait aussi partie de toute la publicité qui est faite autour de la pâtisserie avec les émissions de télé, etc. En fait, ça donne envie de voir toutes ces pièces artistiques, de voir tous ces pâtissiers aussi extrêmement connus passer à la télé. Et du coup, bah, ça semblait plutôt évident de faire de la pâtisserie.
Une préférence pour le sucré, non ? Pas particulièrement ?
Et bah, pas particulièrement, parce que je pense que je mange plus de salé que de sucré.
Ah ouais ?
Mais par contre, ça me fait extrêmement plaisir de faire manger des desserts à
aux
tout
autres.
Le monde.
Ouais. Comme ça, c'est eux qui grossissent et pas toi.
Exactement.
Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier ? Dans la pâtisserie ?
Je pense que c'est la facilité de créer des choses en fait, avec des matières premières simples, basiques, en fait, tout simplement. Et en fait, il y a une infinité de choses à faire avec toutes ces matières premières, en fait, tout simplement.
Je me fais souvent la réflexion parce que c'est vrai qu'à partir des mêmes aliments, il y a une multitude de choses qu'on peut créer. Et pour autant, par exemple, la réflexion que je me fais quand je vais faire mes courses, c'est que je me fais toujours les mêmes plats. C'est terrible.
Mais
c'est vrai que si tu es créatif, tu peux faire des choses incroyables. Par rapport à l'aspect compagnon du devoir, pour ceux qui ne connaissent pas bien, qu'est-ce que ça signifie être compagnon du devoir ?
Alors déjà, compagnon, par rapport à l'idée qu'on peut se faire, c'est pas du tout un diplôme ou quelque chose qu'on va marquer sur son CV. C'est purement personnel, c'est-à-dire que ben, moi, du coup, j'ai fait tout mon apprentissage en alternance chez les compagnons du devoir, en voyageant au sein des maisons des compagnons. Et c'était simplement la suite logique, en fait, à la fin de mon tour de France. En fait, sur tout mon tour de France, j'ai des compagnons de mon métier, mais aussi d'autres métiers qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, qui m'ont appris, qui m'ont transmis. Donc, tout simplement, à la fin de mon tour de France, c'était évident pour moi de faire la même chose, de devenir compagnon, et puis de refaire la même chose avec les jeunes qui arriveront comme moi, peut-être parfois un peu perdus, d'être là pour les accompagner, les aider, transmettre un maximum et passer beaucoup, beaucoup de temps avec eux, quoi.
C'est un voyage qui dure combien de temps ?
Alors ça dépend, mais en général, on est plutôt autour des 5 ans. Après, ça dépend. Moi, je suis arrivée chez les compagnons, du coup, juste après mon bac. J'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Il me reste encore un an, chez les compagnons vraiment proches. Je m'installerai moi de mon côté. Donc, ça fera 8 ans que je serai chez les compagnons. Une fois que ce sera terminé, ce ne sera pas réellement terminé parce que du coup, moi, je serai sédentaire, c'est ce qu'on dit chez les compagnons. Et du coup, je participerai toujours aux réunions pour accompagner les jeunes, pour les aider, pour transmettre, les accueillir, etc. Donc, mais d'un peu plus loin.
Quand tes parents ont décidé que c'était OK pour faire de la pâtisserie et qu'ils t'ont orienté vers les compagnons du devoir, Pourquoi ce choix-là, tu pensais? Parce que quitte à faire un métier artisanal, autant aller vers ce qui se fait de mieux, être le mieux formé. C'était quoi la motivation principale?
Je pense que c'est ça, parce que moi, alors ma maman connaissait pas du tout les compagnons, mais par contre mon beau-père, oui. Il connaissait de nom, mais on n'a personne de chez moi qui est allé. Et simplement, il s'est renseigné, il a vu qu'on faisait de la pâtisserie. Dans sa tête, les compagnons, c'était la rigueur. Mmh. J'étais très organisée, je savais déjà ce que je voulais un peu depuis un peu toujours. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, il faut qu'elle aille là-bas parce que ça va lui plaire. Et en fait, c'est par le pur des hasards. On a fait du coup les journées portes ouvertes. Moi, je voulais juste faire de la pâtisserie, alors peu importe l'école, en fait, finalement, c'était pas très important pour moi. Et puis, une fois que je suis rentrée chez les compagnons, finalement, je m'y sentais plus que bien et du coup, j'y suis restée.
Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, humainement, de suivre ce parcours?
Déjà, je pense que ça apprend vachement l'autonomie. Chez les compagnons. Enfin, en fait, quand on arrive chez les compagnons, on vit comme dans une énorme colocation. On est avec des jeunes qui ont entre 15 et peut-être 27 ans. Donc déjà, en termes de maturité, on n'a pas le choix que de se mettre au niveau de ceux avec qui on parle. Donc déjà, rien que pour ça, déjà, c'est énorme. L'échange intergénérationnel aussi avec, du coup, les compagnons qui sont installés, donc les compagnons sédentaires, qui, eux, du coup, ont entre 27 et 90 ans. Enfin, il y a énormément d'échanges intergénérationnels et c'est hyper intéressant. On se tutoie tous, c'est hyper convivial, hyper familial. Et pour autant, on est tous hyper conscients du travail qui nous attend et du travail qu'on doit fournir. Pas parce que je sais pas comment expliquer, mais parce qu'en fait, c'est un devoir de le faire. C'est-à-dire que, en fait, on nous offre la formation, mais on se doit de la suivre.
Oui.
Et c'est pas c'est à moitié un choix, en fait. On a choisi la formation, mais du coup, on doit la respecter. Et en fait, c'est ça sur tout le cursus. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime être chez les compagnons, parce qu'on pense tous la même chose. C'est-à-dire que on est là, c'est parce qu'on a envie de travailler, donc on va tous se mettre au travail.
Est-ce qu'il y a un mantra autour des compagnons du devoir, une ligne directrice, quelque chose par exemple pour la France, liberté, égalité, fraternité. Quelle est la devise des compagnons du devoir?
Nous, c'est ni s'asservir, ni se servir, mais servir.
Ce qui signifie?
Mais comme son nom l'indique, c'est-à-dire que le but, c'est pas de se mettre à genoux.
Ni s'asservir, ni se servir.
Mais servir.
D'accord. C'est,
en fait, on va pas se mettre à genoux. Enfin, faut pas qu'on se sente à plus en pouvoir. Il faut pas non plus qu'on aille se servir et puis qu'en fait, on fasse rien du tout. Mais par contre, il faut qu'on soit présent, qu'on conserve la cause, en fait. Et la cause, c'est qui? C'est tout le monde. Pas les compagnons, c'est tout le monde.
Donc il y a quelque chose de vraiment noble, c'est-à-dire il ne faut pas se soumettre, il ne faut pas manquer d'humilité et il ne faut pas non plus... quelle est la troisième, tu m'as dit?
Mais il faut plutôt servir.
Enfin, servir,
En fait, il faut être volontaire, en fait, tout simplement.
Aider, quoi.
Aider son prochain. Nous, on a ce qu'on appelle une règle chez les compagnons. Elle est affichée en toutes nos maisons de compagnons, en salle à manger. Elle est lisible par toutes et tous. Et cette règle, si on part sur le Tour de France, c'est qu'on y adhère. Bon, c'est simple, dans cette règle, il n'y a rien d'extravagant. Tout ce qu'on dit, c'est de se respecter les uns les autres, de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place et pas juste une place, parce que c'est facile de trouver juste une place. De respecter les matières premières aussi. Mais forcément, on est les métiers de l'artisanat, donc on va utiliser des matériaux. Mais le but, c'est pas d'en faire du gaspillage. Loin de là. Et en fait, ça va juste remettre... au centre de la table les choses qui sont importantes et les valeurs qui sont importantes chez les compagnons, le respect, la bienveillance, etc., etc.
Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il y a une trentaine de métiers qui sont proposés au sein des compagnons du devoir, des métiers artisanaux, beaucoup méconnus, disons qu'ils sont plus très en vogue chez les jeunes aujourd'hui. Ce que je te demandais, c'était de savoir, comme c'était des métiers un peu de niche et qu'aujourd'hui, on tend plus vers, par exemple, des métiers autour de l'intelligence artificielle ou des choses comme ça, est-ce qu'il y avait des perspectives à l'issue de ce qui était appris chez les compagnons? Et effectivement, ce que tu me disais, c'était que chaque personne, peu importe le métier qu'elle y apprend, en ressort avec un... trouve un poste et puis même peut s'installer toute seule. Et comment vous faites pour faire connaître vos métiers et ce que vous faites aux plus jeunes? Parce que c'est vrai que moi, à l'école, on m'a jamais parlé des compagnons du devoir.
Alors, nous, en général, on essaye de faire des visites de collège. Donc, moi, je sais que je vais beaucoup à la rencontre des collégiens qui sont en quatrième ou en troisième, plutôt les troisièmes. Moi, je leur parle un peu des compagnons, je leur présente les 30 métiers. En général, on fait des petits jeux de mime pour essayer de voir s'ils connaissent un peu les métiers ou pas. On organise aussi 2 journées portes ouvertes par an, enfin 2 week-ends de portes ouvertes par an, en janvier et en mars, chaque année. On ouvre les portes de la maison, on fait une visite, on a des jeunes de chez nous qui sont en train de travailler, qui font tester les métiers, et en fait c'est grâce à ça qu'on essaye de se faire un peu connaître, quoi. Après des fois c'est un peu difficile parce que les écoles nous ouvrent pas forcément les portes,
Oui.
parce que forcément il y a une baisse de natalité. Qui en fait c'est comme ça, donc il y aura de moins en moins de jeunes, donc ça veut dire qu'il y aura aussi de moins en moins de jeunes en poursuite de formation. Donc on sait aussi que ben, les écoles d'études supérieures vont avoir envie de garder ces jeunes-là.
En fait, moi, ce que je trouve regrettable et ce que j'aurais aimé qu'il soit remis au cœur, au centre de l'éducation, par exemple, c'est que à l'époque où moi j'étais, par exemple, collégienne, les métiers de l'artisanat étaient vraiment pointés du doigt, c'est-à-dire que t'allais apprendre un métier si t'étais un cancre à l'école, et même tes parents voulaient pas spécialement que t'ailles en BEP, CAP, etc., parce que ça veut dire que t'étais un peu un raté, quoi. Et alors, du coup, souvent, on te pousse à faire des études générales qui t'apprennent rien, parce que c'est général, et qu'après, c'est difficile de savoir si t'as pas d'appétence comme toi t'avais depuis enfant sur quelque chose qui t'anime, qui te plaît. C'est difficile, en tout cas moi ça a été mon cas, je ne veux pas en faire une généralité, mais de savoir ce que tu souhaites faire. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc., c'est que c'est des métiers qui vont être totalement revalorisés parce que c'est des métiers que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer, des métiers de savoir-faire et pour lesquels moi j'ai grande admiration puisque surtout dans notre région, tu as quand même encore des forgerons, des chaudronniers, tout un tas de professions anciennes. Qui persistent et qui sont hyper nobles et qui nécessitent un savoir-faire incroyable. Et où est-ce que je voulais en venir? C'est que oui, voilà, ce que j'aurais aimé qu'il soit remis au centre de l'éducation, c'est qu'on apprenne aux enfants, en fait, à avoir un métier. Et c'est pour ça que moi, je te dis, les compagnons du devoir, on ne nous en parlait pas, mais ça serait bien de pouvoir apprendre aux enfants et même aux adultes à savoir faire quelque chose vraiment de leurs mains, quoi.
Enfin, puis ça se voit parce qu'aujourd'hui, on a vachement. Enfin, en fait, on a de plus en plus de reconversions professionnelles ou de jeunes qui sortent de bac comme moi et qui viennent chez les compagnons pour se former. Et en général, ils viennent et ils nous disent tous la même chose. On voudrait faire quelque chose de concret.
Oui, donner du sens à ce qu'on fait.
Ouais.
Et là, rien que la satisfaction de pouvoir créer de ses mains, c'est incroyable. Parce que quand tu es derrière un ordinateur, tu ne crées pas quelque chose. Enfin, ça dépend, mais c'est vrai que c'est difficile de créer quelque chose, même ne serait-ce que de palpable. Donc, c'est vrai que cette satisfaction est assez chouette.
Et en général, ils sont hyper contents d'arriver et de pouvoir trouver leur voie. Et parfois, ils arrivent pour passer un CAP charpente et finalement, ils finissent menuisier parce que bah, ils ont vu les jeunes à côté travailler en menuiserie. Du coup, ils sont allés voir par curiosité. Et puis hop, l'année d'après, ils sont partis
Ils
en CAP
bifurquent, oui.
menuiserie. Ils bifurquent et ils finissent compagnons menuisiers, quoi.
Ouais, c'est
Enfin,
génial.
et ça, on a dans pas mal de métiers. Ça arrive souvent.
Ah, c'est chouette. Bah, tu vois, c'est ça, c'est pareil, c'est l'immersion et le fait de pouvoir enfin, voir et savoir ce qui se fait autour. C'est comme ça que tu peux savoir ce que tu
Mais
veux
il
faire.
y a de plus en plus de choses mises en place par rapport à ça. Je fais de la pub un peu, mais on a, enfin, ici, vous avez l'outil en main qui est pas très loin. L'outil en main, c'est une association, il y en a un peu partout en France. Ils prennent des jeunes tous les mercredis, si je dis pas de bêtises, pour leur faire découvrir des métiers.
Ah, génial.
Et en général, c'est des professionnels, soit qui ont un peu de temps, soit des professionnels qui sont à la retraite aujourd'hui. Nous, on a un compagnon là qui s'est mis avec eux. Je lui ai dit, vas-y, va là-bas, si tu verras, ça va te plaire. Et du coup, ils accueillent des jeunes très jeunes. Ils ont, je crois, entre 9 et peut-être 14 ans. Pour tester des métiers différents tous les mercredis. De la couture, de la charpente,
Trop chouette.
de la maçonnerie, et ils font plein plein de choses. Et du coup, ils arrivent un peu à voir si ça pourrait leur plaire ou pas pour le futur.
Et tu dis que ça s'appelle l'outil en main.
Ouais.
Ok. Pour en revenir un peu plus à ton métier de pâtissière, alors aujourd'hui, toi, tu es directrice du CFA, mais tu retourneras à ton métier de la pâtisserie, et donc tu m'as dit d'ici un an. À quoi ça ressemble une journée type dans la vie d'une pâtissière?
Une journée type, en général, on commence à 5 ou 6 heures, ça va dépendre des entreprises.
Ah, c'est tard, quoi.
Ben 6 heures, en vrai, c'est plutôt tard pour nous. Ah ouais. Donc, en vrai, ça va. Mais on commence vers 5 ou 6 heures. En général, on commence déjà par envoyer tout ce qui est en boutique. Et ensuite, on fait de la mise en place pour la semaine à venir ou pour le lendemain. Et la journée se termine vers 14 heures. Et puis, on recommence le lendemain, etc., etc.
Est-ce que tu dirais qu'il y a des idées reçues sur le métier de la pâtisserie ?
Il y a des idées reçues. Je pense que la toute première, c'est peut-être que c'est un métier qui est un peu sexiste. Ben, c'est pas faux, en fait. Donc, c'est pas faux, mais ça change et ça tend à changer. Et on a de plus en plus de femmes qui sont pâtissières et c'est très bien. Après, en idées reçues, ben, c'est forcément les horaires sont difficiles, c'est pas fait pour tout le monde, etc. Bon, moi, je dirais que non, parce qu'en fait, finalement, c'est une habitude à prendre. Mmh. Quand on est habitué à commencer à 6h, qu'on termine à 14h et qu'on a l'après-midi entière de libre, c'est pas si grave, en fait, finalement. Après, effectivement, d'autres idées reçues, je pense que c'est pas très bien payé. Bah, effectivement, c'est vrai, c'est pas très bien payé. Et en général, c'est pour ça aussi que c'est un métier de passion. Mais pareil, ça tend à changer. Et les jeunes patrons, quand je dis jeunes patrons, je vais plutôt compter les patrons qui ont la trentaine. Pas que je trouve que les autres sont pas jeunes, mais parce que je trouve que les autres ont encore une mentalité, pour la plupart, à l'ancienne. Mmh. Mais par contre, pour les jeunes patrons qui ont vraiment une petite trentaine, ça commence vraiment à changer. On essaye de pas travailler le dimanche, d'avoir des salaires qui soient plus que corrects, et qui soient surtout en adéquation avec le niveau. Donc en fait, ça tend à changer, ça va prendre encore beaucoup de temps, oui. Mais ça tend à changer.
Quel est le côté le plus difficile de ce métier ?
Le côté le plus difficile, je dirais que pour mon expérience à moi, le côté le plus difficile, je pense, c'est plutôt le salaire, enfin, c'est de faire des heures sup qui ne sont pas payées, oui. De travailler et que ça semble tout à fait normal pour un employeur, alors qu'en fait... normalement, je suis censée avoir terminé et tu vas pas me payer mes heures sup, en fait.
Enfin, oui, bien sûr.
Je pense que c'est la partie la plus difficile à accepter. Et en même temps, je pense qu'il faut pas le prendre, ce que je dis là, pour une généralité. C'est-à-dire que pour moi, en tant qu'apprenti, ça m'a jamais dérangé de faire des heures sup par-ci, par-là, parce que c'était vraiment de l'apprentissage. Et en général, quand je faisais des heures supplémentaires, c'est parce que j'apprenais à faire des macarons avec mon patron, ou que j'apprenais... Enfin, il me faisait un petit cours chocolat. Bon, ça, on va pas se mentir, ça compte pas comme des heures de travail. Mmh. Parce qu'on est content d'apprendre et on est content d'être là. Maintenant, je pense que ce qui est le plus dérangeant, c'est vraiment cette partie de... une fois que je commence à construire ma vie... peut-être avoir envie d'avoir des enfants, se poser, en fait, tout simplement.
Bien sûr, oui.
Là, par contre, ça peut être embêtant de voir que pour un patron, c'est normal que tu restes, alors qu'en fait, t'es pas censé rester.
Et alors, tu dirais que c'est parce qu'eux ont évolué dans ce truc où c'est normal que tu fasses des heures sup et qu'elles soient pas payées, ou alors tu dirais que c'est parce que c'est pas, même pour eux, hyper rémunérateur et que du coup, ils peuvent pas vous verser... Ce qui ne justifie pas.
Je pense que ça dépend des employeurs, mais je pense que dans la généralité, ils ont vécu un apprentissage comme ça.
Donc ils le reproduisent.
Donc pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas vivre un apprentissage comme moi, je l'ai vécu ? Enfin, pour moi, c'est comme ça.
Et est-ce que tu dirais que c'est compliqué aujourd'hui, parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure un peu en off, le fait qu'il y avait beaucoup maintenant de boulangerie, pâtisserie qui était vraiment plus axée, alors c'est pas un tort, mais business plus que artisanat. Et, alors les deux peuvent ne pas être dissociables. C'est juste que, par exemple, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de points de vente de pain, de pâtisserie, mais qui ne sont pas faits artisanalement ou sur place. Est-ce que, du coup, c'est plus difficile de trouver un job aujourd'hui quand tu es pâtissier, puisqu'il y a presque peut-être plus beaucoup de vrais artisans ?
C'est pas difficile de trouver un boulot en tant que pâtissier, mais le plus difficile, c'est d'en trouver un qui nous convient, oui. Je pense. Parce que comme dit, quand on arrive avec déjà 3-4 diplômes dans le métier, mais déjà on va attendre aussi un poste un peu différent que juste pâtissier,
oui.
Un salaire aussi un peu différent. Je pense que c'est ça le plus compliqué à trouver. Mais en soi, trouver du travail, c'est comme pour moi partout, c'est facile d'en trouver quand on cherche. Mmh. Maintenant, trouver le bon, c'est peut-être la partie la plus difficile,
oui.
Je pense.
Ouais, j'entends. On va partir, si tu es d'accord, sur des questions un peu tu préfères, top et dilemme. Et tu me dis ce que tu en penses. Le but, ce n'est pas forcément de faire des réponses très élaborées, okay. Mais voilà. Quelle est, selon toi, la pâtisserie française la plus sous-cotée ?
La plus sous-cotée, je pense que c'est l'éclair au café parce que c'est mon dessert préféré.
Ah. En plus, je me disais que tu allais partir sur l'éclair, je sais pas pourquoi. Le dessert que tout le monde adore mais que toi tu n'aimes pas du tout.
Je sais pas s'il y a réellement un dessert que j'aime pas. Je dirais que en général les gens adorent tout ce qui est à base de chocolat.
Mmh.
J'aime ça, mais à choisir, je ne choisirais pas forcément un dessert au chocolat.
Tu choisirais l'éclair au café, on a bien compris. La viennoiserie la plus difficile à réussir selon toi ?
Moi, je dirais que c'est le croissant, mais pas forcément à réussir au goût, mais plutôt visuellement. On est habitué à acheter des croissants qui ne sont pas forcément très jolis. Alors qu'en vrai, un croissant très bien fait, ça demande quand même beaucoup de technique.
Quel est le dessert, à contrario, le plus surcoté ? Est-ce que tu as des choses qui deviennent... Qu'est-ce qui est plus... Après, il y a pas mal de choses qui sont en vogue par moment, ouais. Et qui changent. Ouais.
Je sais que l'un des desserts préférés des Français, c'est la tarte au citron meringué. Mais j'aime aussi, alors je ne sais pas si tu peux dire que c'est surcoté.
Bah c'est souvent sur. Alors moi ça a été longtemps mon dessert préféré parce que je suis pas trop dessert. Mais alors pour en trouver une bonne,
ouais.
faut s'accrocher. Enfin une bonne comme moi j'estime qu'elle soit bonne. Ah, c'est pas le goût ou l'ingrédient que tu détestes travailler. Tu parlais du chocolat, mais ça j'imagine que c'est facile à travailler.
À travailler ça va. Quelque chose que je déteste travailler.
La pâte à choux.
Non ça va en vrai la pâte à choux. En pâtisserie, il n'y a pas tant d'ingrédients que j'aime pas travailler ou que j'aime pas tout court. Peut-être tout ce qui est... on fait beaucoup de choses aujourd'hui avec des herbes, ce genre de choses. Bon, ça, c'est pas mon grand kiff.
C'est pas ton truc.
Tout ce qui est un peu herbacé, c'est pas un truc que je trouve très intéressant. Je trouve que le simple, c'est très bien.
Est-ce que tu dirais qu'Instagram a amélioré ou a détruit la pâtisserie ?
Moi, je pense que ça... l'a améliorée à 300%.
Et alors, moi, ce que je me dis souvent, c'est qu'il y a beaucoup de desserts qui ont l'air bons. Est-ce que pour autant, ils sont aussi bons qu'ils ont l'air beaux ?
Qu'ils ont l'air beaux.
Ça, je suis pas sûre que ce soit systématique. Est-ce que tu penses qu'une pâtisserie peut vraiment valoir 15 ou 20 euros ?
Si elle fait plus d'une part, c'est pas mal. mais une pâtisserie individuelle, 15 ou 20 euros... on a parlé un peu tout à l'heure. Je pense que quand on achète une pâtisserie à ce prix-là, c'est qu'on achète l'image de marque,
oui.
En fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en vaut pas forcément le coup, parce qu'on a énormément d'ingrédients. Et si on veut travailler avec des produits extrêmement nobles, ben, ça coûte extrêmement cher. Donc ça peut valoir 15 ou 20 euros. Maintenant, je ne suis pas sûre que pour un trompe-l'œil citron, ça vaille le coup.
Oui, c'est ce que...
Par exemple.
Ouais. Ou alors un pain au chocolat, enfin une chocolatine au
voilà.
Ritz. Qui reste en fait le même produit avec les mêmes ingrédients.
C'est ça. Ouais. Donc, ça dépend.
Le geste technique qui t'impressionne toujours chez un pâtissier ?
Je pense que c'est les chocolatiers.
C'est vrai ?
Parce que les chocolatistes, déjà, la plupart du temps, sont habillés en blanc. Rarement en noir, même si on a de plus en plus qui sont habillés en noir. Mais ils sont habillés en blanc. Ils sont toujours hyper propres. Et le chocolat, c'est l'une des choses qui salit le plus dans notre métier. Et pour réussir à rester propre à la fin de la journée en ayant travaillé pendant 8 heures dans le chocolat, je pense qu'il faut être plutôt très doué.
Et est-ce que tu crois que c'est vrai tout ça ? Ou est-ce qu'il y a un complot où on essaie de nous faire croire que c'est
non,
eux qui ont réalisé ça et...
Non, je pense que c'est vrai quand même parce que, on le voit nous en apprentissage, on a toujours nos employeurs qui nous disent « mais te colle pas autour, tu vas être tout sale ». En fait, ils ont tous des techniques pour rester le plus propre possible en fait.
Il faudra qu'ils m'apprennent parce que c'est vrai que moi, quand je fais à manger, j'ai du mal à ne pas me tâcher. Est-ce que si tu pouvais aider, par exemple, les gens qui nous écoutent à savoir si ce qu'ils achètent est industriel ou est artisanal, qu'est-ce qui, selon toi, peut montrer un détail que la pâtisserie est industrielle ?
Je pense que ça dépend, mais déjà au goût. Si déjà au goût, ça vous, enfin, ça semble un peu bizarre, c'est que c'est sûrement pas fait maison.
Oui.
Visuellement, je pense qu'on peut pas toujours le savoir, parce que ben aujourd'hui, même en pâtisserie, on a des technologies qui sont folles pour découper nos gâteaux. Ils font tous exactement la même taille. Qui ont des talents de pochage extraordinaires. C'est les mêmes gâteaux, ils sont faits maison, 100% maison. Et pour autant, on pourrait croire que c'est industriel parce que c'est très bien fait.
Ah oui.
Et ça, faut pas trop se fier, je pense, au visuel, mais c'est plutôt au goût. En général, on le sent si c'est quelque chose qui est frais ou pas frais. Donc,
c'est
plutôt au goût.
C'est pour des palais comme le tien, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent
peut-être.
Même pas avoir le palais fin, quoi. Enfin, je dois en faire partie. Au niveau des compagnons, on retourne là-dessus, mais... On se dit que ça fait rêver beaucoup de gens, mais qu'est-ce qu'on montre jamais de la réalité des compagnons du devoir ?
Ce qu'on montre jamais, c'est tout ce que nos jeunes mettent de côté pour vivre chez les compagnons pendant 5 ans, justement, à peu près. C'est-à-dire que moi, sur mon tour de France, déjà, je suis pâtissière, donc ça veut dire que le samedi-dimanche, je travaillais. Ça veut dire que les anniversaires chez mes parents, mes frères, j'y allais pas.
Oui.
Noël, j'y allais chaque année, mais j'y allais 2 jours. J'avais pas de vacances de Noël. En fait, ces choses-là, on les voit pas. Parce que déjà, c'est pas pour tout le monde. Un charpentier, il a des vacances au mois de décembre. Un pâtissier, il en a pas. Donc, ça va dépendre aussi des métiers. Mais les jeunes chez nous mettent beaucoup de côté toute cette partie-là. Et des fois, c'est très dur pour eux. Des fois, ils ont besoin de parler, de pleurer un coup. Et cette partie-là, elle est difficile. Et le plus important, c'est d'avoir une famille qui nous soutient, qui nous dit... C'est pas grave, ça va aller, ça va durer 5 ans, et puis après, ça ira. Moi, je sais que ma mère, elle m'a toujours dit... elle m'a toujours mis un petit coup de pied aux fesses quand ça allait pas, en me disant, c'est bon, ça ira mieux. Et c'est ce qui m'a aidée, mais effectivement, la vie continue sans nous, chez nous.
Ouais. C'est des sacrifices, mais c'est 5 ans de sacrifices pour, après, 40 ans de... Comment dire, enfin, de tranquillité, j'entends. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais c'est un prix à payer pour après avoir... une vie plus confortable. Est-ce que tu dirais, toi, qu'on doit forcément souffrir pour devenir excellent dans un artisanat ?
Je ne sais pas si on doit forcément souffrir, mais on doit forcément faire les sacrifices.
Oui.
Ça, c'est sûr. Que ce soit pendant l'apprentissage, si on a envie de faire des concours ou autre, il y a forcément un moment donné où on va s'empêcher de faire des choses pour justement faire ce dont on a envie.
On n'a rien sans rien, mais c'est valable pour l'artisanat, comme pour des études de médecine, comme pour tout un tas de choses. Est-ce que tu penses qu'on peut encore faire ce métier uniquement par passion aujourd'hui ? En ce moment, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue économique en France, mais même avant ça, il y avait eu une crise de l'énergie où il y a beaucoup d'artisans qui se sont retrouvés bec dans l'eau. Est-ce que c'est encore un métier dont on peut vivre quand on se lance à son compte ou,
Moi, je pense qu'à partir du moment où on est passionné, on peut tout faire et on trouvera forcément des solutions.
Et quel dessert, toi, te ramène immédiatement à un souvenir d'enfance ? Tu parlais de ta maman qui faisait des gâteaux.
Alors, elle n'en a pas fait pendant très très longtemps, mais elle en a fait quand même. Mais je dirais plutôt que c'est la tarte à la rhubarbe, parce que ma mamie avait beaucoup de rhubarbe dans son jardin, et qu'en général, quand on allait chez elle, c'était tarte à la rhubarbe.
Obligatoire. Alors, j'ai quelques questions pour clôturer notre échange. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent quand ils goûtent une de tes créations ?
Moi, j'aimerais qu'ils soient contents de manger. En général, on est toujours heureux de manger.
Oui.
Et qu'ils soient contents de manger et de se dire « Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un dessert aussi bon. »
Est-ce que tu penses que du coup, ce qui est le plus touchant, c'est que ça leur rappelle un mot ? Parce que, par exemple, moi, ce que j'associe au repas, au fait de manger, c'est forcément c'est les souvenirs. C'est-à-dire, j'étais avec telle ou telle personne ou j'étais à tel endroit et c'est des émotions. Est-ce que tu veux leur faire axer plus sur quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté, de « waouh » ou d'incroyable ? Ou est-ce que tu préfères que ça les ramène vers quelque chose qu'ils ont vécu, un souvenir chez leur grand-mère ou manger une tarte à la rhubarbe ou...
Moi, je pense que c'est plutôt se dire « ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé comme ça ».
T'es aussi bonne.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est chouette. Si on se revoit dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli ?
Je pense que si on se revoit dans 10 ans, j'aimerais déjà... être partie en pâtisserie, ce serait déjà pas mal. avoir des projets en cours, voire terminés, comme celui d'ouvrir mon entreprise, d'avoir ma maison à moi, et puis potentiellement d'avoir des enfants aussi.
Et ta maison, t'aimerais l'avoir dans quelle région ?
Pour l'instant, c'est encore en réflexion, parce que je suis encore indécise sur où j'aimerais aller, mais peut-être plutôt dans le sud de la France. Ça serait plutôt chouette.
Parce que toi, t'es originaire d'où ?
De Lyon.
De Lyon, ok. Oui. Et donc sud-est, c'est ça ?
Non, sud-ouest, ça me plaît pas mal.
Oui.
Je suis pas forcément pour repartir à Lyon. J'y retournerai de temps en temps, mais je suis pas pour repartir vivre là-bas en tout cas.
Non, bah c'est chouette. J'espère qu'on pourra goûter en exclusivité tes créations.
J'espère aussi.
Le plus beau conseil qu'on t'ait donné dans ce métier, quel était-il ?
Je pense que c'est pas forcément dans ce métier. Mais c'est plutôt dans la vie en général, et c'est un compagnon pâtissier qui me l'a donné à ma toute première année du Tour de France, et il m'a dit si tu veux pouvoir dire quelque chose, parce qu'en général je dois dire que je l'ai toujours grande ouverte et j'ai toujours beaucoup de choses à dire, il m'a dit si tu veux pouvoir dire quelque chose, il faut que tu aies les épaules pour, sous-entendu si tu te permets de dire quelque chose, c'est que toi derrière t'es irréprochable et que personne pourra te faire de reproches, quoi. Et je pense que c'est le conseil qui m'a le plus aidé, que ce soit en pâtisserie ou chez les compagnons ou dans la vie en général. Parce que du coup, en général, si je dis quelque chose, c'est que je sais que j'ai le droit de le penser, de le dire. Ouais, je suis légitime à le dire.
Oui.
Et à contrario, moi, on ne pourra pas me faire de reproches parce qu'en fait, j'ai essuyé mes pieds en fait, avant de...
Ouais, ouais, tu
j'ai vraiment regardé.
T'as fait par l'exemple. Ouais. Oui.
Donc je pense que c'est le plus beau conseil qu'on m'ait donné.
Et alors, une dernière chose, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui hésitent à suivre une voie artisanale par peur de ne pas réussir ?
Eh bien, tout simplement, s'ils ont envie de le faire, il faut le faire. En général, si on a envie de faire quelque chose, on a les moyens pour réussir, donc il n'y a pas de raison d'échouer. Quelque chose qu'on a envie, c'est très facile, on ne fait pas d'efforts.
Non, mais... Eh bien, vous entendez, donc lancez-vous. En tout cas, je tiens à te remercier pour cet échange. Au-delà de la pâtisserie, je trouve qu'on ressent surtout, à travers ton discours, de la passion, mais aussi une réelle implication par rapport aux compagnons, par rapport à, et même, je pense, de la reconnaissance par rapport à tout ce que tu as appris, une volonté de transmission aux autres. J'ai l'impression qu'il y a une vraie, comment on pourrait dire ça, comment on peut appeler ça. Le mot m'échappe, Antoine. Tu sais, quand il y a une vraie solidarité à travers...
Une vraie fraternité.
Une vraie fraternité, oui, c'est ça. Tout ça pour ça. Une vraie fraternité entre vous, et c'est hyper noble et c'est rare même de nos jours de pouvoir constater telle chose. J'ai été vraiment ravie de pouvoir découvrir tout ça avec toi et que tous les auditeurs aient pu le découvrir aussi. Et puis, je te souhaite bonne route pour la reprise de la pâtisserie l'année prochaine, et puis en espère qu'elle ouvre sa maison en Dordogne, mais bon.
Merci.
À très bientôt.